patins d'argent. Chapitre 12. Devant les magistrats, le palais et le bois de la haie, une réception fraternelle. Vous pouvez penser que la fille de l'hôtel était debout avec l'aurore le lendemain matin et qu'elle se remuait pour préparer un bon repas au jeune maître. Meinheur possédait un gong chinois qui faisait à lui seul plus de bruit que 12 cloches de château. Son affreux bout de sel résonnait par toute la maison, galvanisait les plus endormis. Mais la jeune fille ne souffrit pas qu'on le fît sonner ce matin-là. « Laissez dormir les braves jeunes messieurs, » dit-elle au marmiton. « Ils auront quelque chose de chaud à manger quand ils se réveilleront. » Il était 10 heures lorsque le capitaine et sa compagnie descendirent à la débandade, les uns après les autres. « Il est bientôt temps, » dit l'hôte ironiquement. « Voilà une jolie heure pour se présenter devant les magistrats. Tout cela est pour faire honneur à une auberge respectable. » Mais reprenant son ton sérieux, « Vous témoignerez sincèrement, n'est-ce pas, jeunes messieurs? Vous direz que vous avez trouvé au Lion Rouge une nourriture excellente et un logement confortable. »«
Certainement, » répondit Karl, qui avait retrouvé tout son aplomb. « Nous dirons aussi que nous y avons rencontré des gens d'excellente compagnie. » quoi qu'ils rendent leur visite un peu tard.
Monsieur Cliff le regarda fixement et se contenta de répondre par un « hum ». Mais la fille fut moins patiente. Faisant danser ses boucles d'oreilles sous le nez de Karl, elle lui dit aigrement «
Ces visites ne vous ont pas été trop agréables, jeune maître, si l'on en juge par la façon dont vous vous êtes sauvé. »
« L'insolente !» répondit Karl les dents serrées, pendant que le jeune marmiton, qui écoutait derrière la porte, se tordait de rire. Après déjeuner, les jeunes gens, accompagnés de Minor Cliff et de sa fille, se rendirent devant les magistrats. La déposition de Minor roula principalement sur ce fait qu'on n'avait jamais entendu parler de voleurs au Lion Rouge avant cette nuit fatale et que, de plus, l'auberge du Lion Rouge était une auberge respectable, aussi respectable qu'aucune maison de Lyde. Les jeunes gens témoignèrent chacun à leur tour, disant ce qu'ils savaient de l'affaire et déclarant que leur voleur n'était autre que le voyageur qu'ils avaient vu se chauffer au feu de la salle du Lion Rouge. Ludwig fut un peu surpris de découvrir qu'il n'était que de taille ordinaire, surtout après l'avoir dépeint au magistrat comme un géant aux larges épaules carrées et aux jambes d'une longueur extraordinaire. Put déclara qu'il ne s'était réveillé qu'au bruit que faisait le voleur en se débattant sous l'étreinte de Peter. Et les autres ajoutèrent qu'il était juste de dire que le pauvre diable n'avait pas remué un muscle dès l'instant qu'il s'était vu menacé de la pointe du couteau. La fille de l'hôte fit rougir Peter et sourire les juges en déclarant que sans le joli garçon là-bas, elle désignait du doigt Peter, tous les jeunes maîtres auraient pu être assassinés dans leur lit, car cet homme affreux avait un grand couteau à lame brillante et longue comme le bras. Elle devait dire aussi que le beau garçon avait eu fort à faire pour le contenir, mais qu'il était trop modeste pour en convenir. Finalement, après avoir été interrogé et réinterrogé par le commissaire, les témoins furent congédiés et le prisonnier renvoyé en prison. « Le misérable !» s'écria Karl brutalement lorsqu'ils furent dans la rue. « À votre place, Peter, je l'aurais tué séance tenante !»«
Il est heureux pour lui alors, » répondit Peter tranquillement, « qu'il soit tombé en des mains plus clémentes. »
Il paraît qu'il a déjà été arrêté une fois sous la prévention de vol avec effraction. Il n'a pas réussi à voler cette fois, mais il a crocheté la serrure, et aux yeux de la loi, je crois que cela revient au même. De plus, il était armé, et cela rend l'affaire encore plus fâcheuse pour lui.
« Le pauvre homme, » dit Karl d'un ton de pitié affecté, « on dirait que c'est votre frère. »
« C'est mon frère et le vôtre aussi, Karl Schummel, » répondit Peter en le regardant dans les yeux. Qui peut dire ce que nous serions devenus si nous avions été pauvres et mal élevés? On nous a capitonnés contre le vice depuis le jour de notre naissance. Un heureux intérieur et de bons parents auraient peut-être fait de cet homme un tout autre individu. Dieu veuille que la loi puisse l'amender sans l'écraser.
Amen de tout mon cœur, dirent Ben, Lambert, Put et Ludwig. C'est bien parlé, Peter, après avoir bravement agi.
Dit Karl. Il est sans doute très beau de pardonner chrétiennement, même à des engeances pareilles.
Mais je suis naturellement dur, Toutes ces belles idées rebondissent sur moi comme la grêle. Cela ne regarde personne, d'ailleurs, si je suis fait ainsi. Vous êtes moins dur qu'il vous plaît de le croire, dit le bon Pout. La vie vous apprendra qu'on a assez de défauts naturels sans faire parade de ceux qu'on n'a pas. Où vous vous trompez, Karl, c'est quand vous prenez l'aigreur pour la force et l'entêtement pour le caractère. Si on prenait au sérieux les apparences que vous vous donnez, vous n'auriez pas un camarade, Karl. Et vous voyez que vous en avez encore quelques-uns. Karl, démonté, ne répondit pas. Mes amis, dit Peter, j'ai à courir ici surtout après le docteur Bockmann. Et cette fois, je suis résolu à ne pas en avoir le démenti. Pendant que je poursuivrai ma recherche, vous promènerez Ben dans Leyde. Vous verrez une ville curieuse, Ben. C'est la ville classique de la philosophie et de l'érudition. On n'a guère à reprocher à son université que d'être un peu trop routinière. C'est elle qui a condamné la philosophie de Descartes comme coupable d'innovation contre celle d'Aristote. Leyde est la patrie des Elzévirs, rivaux des Estiennes et des Manus. Leurs livres admirables, imprimés sur caractère et sur papier français, dit Ben, sum quinc. Ce Ben sait donc tout, dit Peter. Il connaît théoriquement notre pays mieux que nous-mêmes. Savez-vous, Ben, que vous faites honneur à vos maîtres anglais? Ben s'inclina modestement et Peter reprit. Leyde a soutenu le plus rude des sièges après Harlem, et c'était contre les Espagnols. Il est un Espagnol célèbre, dit Ben, qui a manqué à tous ses devoirs, car il n'est pas probable qu'il se soit trouvé à ce siège. Quelle occasion pourtant pour Don Quichotte s'il avait pu se rencontrer tout à coup face à face avec toute cette armée de moulins à vent, qui fait de Leyde la ville la plus aimantée du monde. Il ne manquerait plus à ce Ben que de savoir le compte des moulins de Leyde. Il le sait, Lambert, répartit Ben aussitôt. 98, mais il ne les a pas comptés. Croyez-vous donc, Lambert, qu'un Anglais vienne dans un pays aussi curieux que le vôtre, sans avoir fait sa provision de savoir dans les guides du voyageur en Hollande? C'est dans un de ces moulins à vent qu'est né Rembrandt. Gérardot, Metzu, Mieris ont Leyde pour patrie. Borave, Jean de Leyde. Assez, assez, s'écrièrent-ils tous et tout d'une voix. Quelle mémoire! D'accord, dit Ben, mais puisque Peter est obligé de nous quitter et que je suis à Leyde, il me semble que l'occasion est bonne de le connaître autrement que par les livres. Et vous seriez bien aimable si vous vouliez m'y aider. Nous sommes tous très aimables, s'écrièrent tous les jeunes gens. Suivez-nous, Ben. Avec un garçon de votre sorte, ce ne sera pas du moins peine perdue. Après avoir consciencieusement visité Leyde et ses monuments, qu'il serait trop long de décrire, une discussion s'éleva. Le moulin de Leydendorf, le moulin de Rembrandt, était à 1 mile de la ville. Ben tenait pour l'aller visiter. Mais l'hôtel où un bon déjeuner les attendait et où Peter devait les retrouver n'était pas à 1 mile, il était à 2 pas. Et, en vertu du proverbe « ventre affamé n'a pas d'oreille », l'avis de la majorité fut que Ben se passerait de voir le moulin de Rembrandt, peu intéressant en lui-même, mais qu'en revanche, tout le monde serait à table en moins de 5 minutes. On entra dans l'hôtel. Quel festin! Peter seul n'y fit pas bonne figure. Le docteur Bockmann était partout où on ne le désirait pas. Il l'avait demandé dans 10 lieux différents, et de l'ensemble des renseignements qu'il avait reçus, il résultait que sans doute l'insaisissable docteur avait quitté Leyde dans la matinée. Peter était désolé de ne pas rapporter à Hans la réponse qu'il désirait tant. La compagnie du capitaine avait si bien fonctionné qu'elle décida qu'après un si bon déjeuner, elle n'avait plus rien à faire à Leyde. Chacun chaussa ses patins. Nos amis étaient à 13 000 de La Haye, un peu plus fatigués que la veille lorsqu'ils avaient quitté Brook. Cependant, l'entrain ne manquait à personne. Ils se remirent en route. Les jeunes gens, tout en patinant joyeusement, accomplissaient à l'envi le tour de force surprenant de tirer à tout moment du pain d'épices de leur poche et de le faire disparaître instantanément. Cette consommation de pain d'épices émerveillait Ben. On avait couru 12 000. Encore quelques coups de patin et l'on serait à La Haye. Lambert proposa alors de varier le chemin en pénétrant dans la ville par le bois. « Ce sera superbe !» s'écrièrent-ils tous. Les patins furent enlevés en un clin d'œil. Le Bosch est un grand parc ou bois de 2 000 de long, célèbre par la grosseur et l'élévation de ses magnifiques hêtres. C'est au centre que se trouve la jolie habitation des bois Huizintbosch, qui sert quelquefois de résidence à la reine. Le bâtiment, quoique d'extérieur fort simple pour un palais, est très bien décoré à l'intérieur et renferme les plus belles peintures de Jordaens. On regarde depuis des années le bois qui l'entoure comme un bois sacré. On ne permet pas aux enfants d'y couper une baguette, et le bruit de la hache n'y a jamais retenti. La guerre et l'émeute elles-mêmes l'ont respecté. Même en cette soirée d'hiver, le bois de la haie était splendide. Le soleil couchant n'avait jamais paru si beau à Peter que ce soir-là. La haie elle-même ne lui avait jamais semblé si engageante, car la maison de sa sœur était tout proche, et le luxe et le confort l'y attendaient. « Enfin, camarade !» s'écria-t-il plein de joie. « Nous pouvons, pour cette fois, espérer nous reposer dans une vraie demeure. Nous y trouverons de bons lits, des chambres bien chaudes, des aliments dignes d'être mangés, et pas de cartes à payer. Je n'avais jamais jusqu'ici apprécié tous ces bonheurs à leur juste valeur. Notre chambre du Lion Rouge aura eu pour effet de nous faire sentir plus vivement le confortable de la maison paternelle. » Les jeunes gens reçurent de la sœur de Peter l'accueil le plus cordial. Après s'être entretenus quelque temps avec leur aimable et spirituelle hôtesse, ils furent conviés à un magnifique festin. Les voyageurs furent ravis de voir les aliments servis dans des plats d'argent et de boire dans des verres que la reine Titania elle-même n'aurait pas dédaignés. La sœur de Peter apprit bientôt avec force détail les aventures arrivées aux jeunes gens. Rien ne fut oublié. Ce que l'un omettait, l'autre sans façon le relevait. Une telle odyssée n'avait pas trop de 5 ou 6 narrateurs. Quand ils eurent tout dit, « Il vous reste, Peter, dit la sœur, à écrire tout de suite à nos parents de Brook pour leur apprendre qu'à vos aventures, vous avez à ajouter, en forme d'épilogue, une conclusion sur laquelle ni vous ni eux n'aviez pu compter. Il faut leur dire en un mot que vous venez à l'instant d'être tous faits prisonniers. » Les jeunes gens eurent l'air fort intrigués. Mais Peter, qui avait compris, répondit en riant qu'ils n'écriraient rien de semblable, attendu qu'ils étaient obligés de repartir au point du jour. Mais la sœur en avait déjà décidé autrement, et il n'est pas si facile qu'on le pense de faire changer d'avis à une Hollandaise. Elle fit briller aux yeux des écoliers des tentations si fortes, elle se montra si gaie et si brillante, elle leur dit d'une voix si séduisante tant de choses irréfutables qu'ils furent enchantés de subir une si douce violence. Il fut donc convenu qu'ils resteraient à la haie au moins 2 jours. Ils parlèrent à leur gracieuse hôtesse de la prochaine course au patin, la suppliant d'y venir assister. Madame Van Gend se laissa entraîner à son tour. « Je serai donc témoin de votre triomphe, Peter, dit-elle, car vous êtes le patineur le plus habile que j'ai jamais connu. » Peter rougit et toussa légèrement. Mais c'était dit, et il n'y avait plus à s'en dédire. Karl se chargea de répondre. « Peter est un beau coureur, dit-il, mais il aura affaire à forte partie. Tous les jeunes gens de Brook patinent à merveille. Il n'est pas jusqu'au va-nu-pied qui ne s'en mêle. » Ces dernières paroles étaient mentalement à l'adresse du pauvre Hans. « La course n'en sera que plus intéressante, dit la dame. Certes, je voudrais que chacun de vous fût le vainqueur. » En ce moment, le beau-frère de Peter, Meinherr van Gent, entra, complétant par son apparition le cercle magique dans lequel nos jeunes gens se sentaient retenus. Les fées invisibles du foyer se mirent aussitôt à leur souffler dans l'oreille que lorsque Meinherr van Gent disait une chose, c'est qu'il la pensait. Aussi, dès qu'il leur eut dit « Je suis charmé de la bonne idée qu'a eue ma femme de vous retenir tous ici », dès qu'il eut donné à chacun une cordiale poignée de main, ils se sentirent tout à fait à l'aise et gais comme des écureuils. On causa de tout. On alla de La Haye à Anvers, mais les langues se fatiguent à leur tour, et il faut revenir de partout. Les heures avaient glissé rapidement depuis qu'on s'était mis à table. Le moment était venu d'aller se mettre au lit. Il était dur sans doute de se séparer, mais l'intérieur des Van Gen était réglé comme une horloge. On ne pouvait songer à s'arrêter sur les seuils des chambres une fois qu'un bonsoir cordial avait été prononcé. Peter se leva le premier le lendemain matin. Connaissant l'extrême ponctualité de son beau-frère, il prit soin qu'aucun de ses amis ne dormît trop tard. Ce fut une rude besogne que d'éveiller Jacob Pout, mais il réussit à lui faire ouvrir les yeux en l'enlevant, avec l'aide de Ben et de Lambert, hors de son lit et en le déposant dans un costume léger sur le parquet froid et poli de sa chambre. Peter écrivit à sa mère pour la prévenir que leur arrivée à Brooke s'était retardée de 2 jours. Dans un post-scriptum, plus important peut-être à ses yeux que le commencement de sa lettre, il n'oublia pas non plus de la charger de faire dire à Hans Brinker qu'à son grand chagrin, il n'était pas parvenu à rencontrer l'inaccessible docteur Bockman, bien qu'il l'eût cherché avec toute l'obstination possible, mais qu'une lettre de lui, très pressante et contenant d'ailleurs le message même de Hans, avait été laissée par lui et très recommandée à l'hôtel où le docteur avait l'habitude de descendre. « Dites-lui aussi, ajoutait Peter, que je ferai de nouvelles tentatives en repassant par l'aile. » Le pauvre Hans paraissait certain que le docteur se hâterait de courir au chevet de son père. « Mais nous qui connaissons mieux le vieux bourru, nous craignons qu'il n'en fasse rien. Ce serait une bonne action que d'envoyer à la chaumière, sans attendre cet original, un autre médecin d'Amsterdam, si toutefois Dame Brinker devait consentir à recevoir tout autre praticien que ce roi des chirurgiens dont elle est si entichée. Vous savez, ma mère, ajoutait Peter, que j'ai toujours considéré la demeure de ma sœur Wangen comme particulièrement tranquille et solitaire, mais je vous assure qu'elle est loin d'être ainsi depuis notre invasion. Ma sœur prétend que nous l'avons réchauffée pour le reste de l'hiver. Mon beau-frère est aimable et excellent pour nous tous. Il dit que nous le faisons regretter de n'avoir pas un nid toujours plein de garçons comme nous. Il a promis de nous laisser monter ses magnifiques chevaux noirs. Ils sont doux comme de jeunes chats, dit-il. Ben est un cavalier parfait, et votre fils Peter est un écuyer très supportable. Jacob montera son poney anglais qui est solide et doux. Avec 3 chevaux supplémentaires, toute la société formant cavalcade sera conduite par mon beau-frère, devenu notre capitaine, et nous parcourrons toutes les rues et toutes les promenades de la ville. Le joli cheval rouan de ma sœur est boiteux, et comme elle n'en veut pas monter d'autres, elle ne nous accompagnera pas. Si j'avais réussi à envoyer le docteur à Hans Brinker et à son père, cette partie m'eût rendu tout à fait heureux. Ludwig nous a déjà baptisés. Nous nous appellerons la cavalerie de Brooke. Nous nous flattons de composer à nous tous une compagnie d'aspect imposant. La haie, avec ses rues larges et droites, ses grandes places et son incomparable bois, est plus propice aux cavalcades qu'aucune autre de nos villes. La cavalerie de Brooke ne fut pas désappointée. Elle fit sensation dans la ville. À leur retour, les jeunes gens déclarèrent que le grand poêle de faïence, monté dans la salle où se tenait habituellement la famille, était décidément un meuble fort utile, car ils purent se presser alentour et se réchauffer, sans risquer de se brûler le bout du nez ou d'attraper des engelures. Ce poêle était un monument de taille à chauffer une ville tout entière. Ses flancs, blancs comme la neige, et ses anneaux de cuivre brillants en faisait un objet délectable à l'œil, et cependant, l'ingrat Ben, tout en se réchauffant complètement, regrettait in petto les beaux feux flambants aux flammes pétillantes qu'il avait vus dans les grandes cheminées des fermes de France lorsqu'il avait visité ce pays. Son impression sur la haie fut que c'était la ville la moins hollandaise de la Hollande. Il était le quartier où il eût pu se croire en France, à Nancy principalement, ou même en Angleterre. Le grand souvenir d'art qu'il en rapporta fut celui de la leçon d'anatomie, le chef-d'œuvre de la première manière de Rembrandt, comme la ronde de nuit d'Amsterdam est le chef-d'œuvre de la dernière. Le musée de La Haye est plein de curiosités, de souvenirs historiques, de reliques étranges et de collections excentriques chinoises, japonaises, orientales et autres, des plus amusantes à voir en dehors des salons de peinture. Mais tout cela s'efface dans le souvenir. La leçon d'anatomie de Rembrandt, grand taureau de Paul Potter, devait seul rester à jamais gravé dans sa mémoire. Il serait injuste d'omettre cependant qu'il pensa à ses frères et à ses sœurs devant la réduction ingénieuse de l'île de Deshima, au Japon, où les Hollandais ont un comptoir. Cette réduction est l'île elle-même, vue par le petit bout de la lorgnette. On éprouve en la regardant les sensations d'un Gulliver devant un Lilliput japonais. On y voit des centaines de personnes dans leurs costumes nationaux, debout ou agenouillés, baissés ou soulevés pour atteindre quelques ustensiles. Tous travaillent avec conscience et leurs demeures avec leurs meubles sont ouvertes. L'œil s'y promène, l'illusion est charmante. Dans une autre salle, une maison de poupées aménagée, à la façon hollandaise, dans une monstrueuse écaille de tortue, et habitée par des poupées hollandaises à l'air digne, est là tout exprès pour vous donner un résumé saisissant de la manière de vivre du peuple hollandais. Quel beau joujou non seulement pour les petites filles, mais pour les grandes. Quel joli cadeau à faire à Gretel, Hilda, Katrinka, et même à la fière Richie. Ben, en parcourant la haie, fut surpris de voir combien les ouvriers hollandais font peu de bruit en accomplissant leurs travaux. Il est impossible d'être moins turbulent. Ni cris, ni chants, ni agitation. Tout se fait en silence. Un certain mouvement de la pipe, un signe de tête, une main levée, sont pour s'émuer des signaux suffisants. Des charges tout entières de fromage ou de hareng étaient enlevées du chariot ou du bateau et lancées dans les magasins sans qu'un seul mot fût prononcé. Toutefois, le passant devait en prendre son parti s'il recevait quelque charge sur la tête, car un Hollandais ne regarde ni devant ni derrière lui lorsqu'il est au travail. Poet reçut très philosophiquement sur le dos un énorme fromage semblable à un boulet. Une sorte de grimace comique fut toute la manifestation de mauvaise humeur qu'il se permit. Ben crut devoir lui offrir des consolations, mais Jacob soutint que ce n'était rien du tout. « Alors, pourquoi avez-vous fait la grimace lorsque ce gros fromage vous a frappé ?»« C'est une espèce de fromage que je n'aime pas, » répondit Jacob.